This is the third part of today's sort of initiation, introduction to questions about LGBT. Please don't mind our student workers who are nicely setting up our cocktail. Everyone's counting down to the 54 minutes to take off. Trying to get Laura back on the phone here. Laura, can you hear me?
Yes, I'm here.
Oh, good. Okay. Welcome back.
Hi, Laura. Thank you.
Hey, Laura. Did you walk?
Hi.
Can you hear us okay?
Yeah.
Okay. All right. So in this third part, what we wanted to do was follow up on the introductory piece concerning sort of LGBT identity, followed by our presentations on sort of health issues and services and the legal framework for our students studying here, so we understand better the context in which we're operating. And finally, coming to this excellent center of resources, where I'm happy to introduce Flora Bolter, who is co-présidente du Centre LGBT de Paris, qui va nous parler pendant le temps qu'il lui faut, des activités, des ressources de ce centre, comment nos étudiants pourraient éventuellement s'investir dans la communauté LGBT, car ça pourrait en intéresser certains, car on avait évoqué cette possibilité tout à l'heure. Et j'interviendrai par la suite rapidement pour parler de Safe Zone. Without further ado,
okay.
Madame.
Donc, comme vous préférez, donc on va faire ça en français ou je ne sais pas, comme vous préférez. Oui, merci beaucoup et bienvenue au centre, puisque donc, vous êtes au centre LGBT Paris Île-de-France. Donc, c'est Paris, mais c'est aussi toute la région parisienne, donc l'Île-de-France. Et c'est un centre qui est un centre de ressources qui existe depuis un peu plus de 20 ans. On est à 22 ans, on va avoir 23. Ça existe depuis tout ce temps-là. Ça s'est créé au départ comme maison des associations, donc des regroupements d'associations LGBT, qui à l'époque étaient des associations gays et lesbiennes, puisque le terme LGBT est venu plus tardivement dans le vocabulaire français. Donc c'était dans les années 90 que des associations se sont réunies pour créer le centre et pour avoir un lieu, puisque jusque-là, les associations n'avaient pas de lieu. Donc c'était totalement privé. C'était un lieu qui était privé, tenu par des associations, donc associatifs, mais qui n'était pas un lieu mis à disposition où la structure ne bénéficiait de rien. C'était, à l'époque, c'était un peu compliqué. Comme vous savez, la dépénalisation, entre guillemets, date de 1981 en France. Donc les associations sont largement antérieures et le droit français au tout début était beaucoup plus avancé que beaucoup d'autres droits européens grâce à Cambacérès, mais bon, il y a eu toute une phase, une certaine répression. Et il y avait des associations, les premières associations LGBT en France dans les années 70. La plus vieille, elle est logée ici, de celles qui sont toujours actives. C'est entre David et Jonathan qui s'est créé en 72, quelque chose comme ça, mais a été déposé en 1977. C'est une association chrétienne qui à l'époque s'appelait une association homophile. Et l'ASMF, c'est un peu les ambivalences, qui a été créée en 75, je crois, ou 76. Qui s'appelait, donc l'ASMF, c'est l'Association Sportive et Motocycliste de France. Comme vous aurez compris, c'est extrêmement gay. Et en fait, il faut chercher dans les initiales, c'est parce qu'on ne pouvait pas déposer sadomasochiste. C'est sportive et motocycliste. Donc ça, c'est un lag historique. Les plus vieilles associations datent de cette période-là. Avant, il y avait des groupes un peu autoconstitués, autogérés, comme le FAR ou le QA, qui s'est créé un peu plus tardivement, ou le GLH, mais il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas d'association déposée en bonne et due forme en 1901. Et donc la grande vague de création d'associations, puisque donc il y avait David et Jonathan et ASMF, l'objet n'est pas très évident dans le titre, hein, parce qu'on était à la période où il y avait cette répression, et donc s'il faut la période où les associations se sont vraiment créées, sont multipliées, c'est les années 90 en France, et donc beaucoup d'associations, la plupart des associations datent des années 90, éventuellement des années 90. Donc le centre, c'est 93, c'était un moment où le militantisme a beaucoup fleuri, en France un peu partout, particulièrement à Paris. Et alors, donc ça c'était, je suis désolée pour le côté introduction de vous, le centre, qu'est-ce que c'est concrètement? C'était un lieu pour pouvoir faire des événements, pour pouvoir faire des réunions, pour pouvoir donner des conseils, pour pouvoir faire, pouvoir s'organiser, pour organiser des marches, et au début, c'était rue Michel-le-Comte, donc dans le 3e arrondissement, par là-bas. C'était tout petit, et c'est assez rapidement passé rue Keller dans le 11e arrondissement, et c'est revenu ici en 2008, dans le 3e arrondissement, et là, c'est le local le plus grand qu'on ait de l'histoire du centre, qui s'appelait au départ Centre Gay et Lesbien, et qui maintenant est le centre LGBT depuis 2008, donc depuis qu'on est ici. Donc, le centre, c'est 80, regroupe 80 associations, dont la SMF et David et Jonathan. Donc, on regroupe 80 associations et à peu près, on a à peu près une centaine de volontaires, donc de bénévoles qui agissent, qui donnent du temps de manière régulière. Et les activités qu'on propose, alors je vous ai sorti ça, j'en ai ramené quelques-uns, il y en a en haut. Juste en passant, n'hésitez pas à les prendre. Ça, c'est notre journal où vous trouverez vraiment tout le programme, ce qui vous donnera une idée de ce qu'on fait un petit peu. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait en ce moment, mais je vais finir plus tard. Donc, oui, le centre, c'est des actions. Alors, il y a plusieurs axes d'activité. Il y a les pôles eux-mêmes, donc des actions directement menées par le centre, des actions des associations. Et donc la mission Maison des associations, où on a des associations qui peuvent être sportives, des associations de chant, des associations de théâtre, des associations type religieuses, enfin pas directement religieuses, mais culturelles, autour de David et Jonathan par exemple. Des associations de défense des droits, notamment SOS Homophobie, fait partie du centre. Ou BICOSE, l'association des bisexuels en France. Trois associations trans. Donc hors trans, objectif face trans, ou trans et l'ANT, l'Association nationale transgenre. Donc d'assez nombreuses associations et tout ce qui est activité, aussi bien loisirs, convivialité que défense des droits. On a aussi l'ARDIS qui mène des permanences ici, notamment le samedi, qui sont des permanences autour de tout ce qui est asile, droit des étrangers en général. Donc notamment pour les couples ou pour les personnes qui sont en demande d'asile et qui sont issues de pays où l'homophobie est forte, et donc pour les aider avec les questions de papier, avec des dossiers, avec avec l'accompagnement en préfecture et tout ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez... Enfin, en France, c'est un droit particulièrement épineux et difficile, et c'est souvent là qu'on rencontre l'administration française dans toute sa splendeur, c'est sur le droit des étrangers. Donc, comme vous savez peut-être. Donc, les associations, les actions des pôles du centre, donc il y a plusieurs pôles, il y a le pôle accueil, donc les gens que vous avez croisés, qui mènent l'action la plus quotidienne, qui est celle, ils sont toujours là, sont un peu les piliers. C'est eux qui ouvrent le centre, qui font qu'on peut ouvrir 6 jours par semaine. Et donc ils ouvrent le centre, ils accueillent les gens, ils les dirigent, ils donnent de l'information. Et souvent, en fait, ça c'est la mission centrale, parce que le fait d'avoir un lieu visible fléché LGBT, ça fait que les gens vont venir quand ils ne connaissent absolument rien ou personne et qui ne savent pas nécessairement. Ça peut être des jeunes, ça peut être des gens qui arrivent sur Paris ou sur sa région et qui ne connaissent rien. Et donc souvent il y a des questions. Il y a des gens qui arrivent avec des demandes assez précises ou au contraire avec vraiment ne connaissant rien au monde LGBT parisien. Et donc du coup c'est eux qui ont cette mission assez essentielle de mettre les gens en confiance, de les accueillir, de les informer, de les orienter. Donc ça c'est une mission qui est évidemment très importante. Comme vous avez vu, il y a aussi une zone un peu bar qui permet aussi de rendre la zone plus conviviale et aussi de rassurer un petit peu, de donner un prétexte aux gens pour rentrer. Qui n'est pas nécessairement. On essaye de faire en sorte que ce soit non-threatening, que ce soit pas, un moment particulièrement difficile de passer le seuil. Et donc, du coup, en offrant des occasions assez simples de se retrouver, ne serait-ce qu'autour d'un café, c'est un peu à ça que ça sert. Et d'ailleurs, qui est là. et notre nouveau notre chargé de service civique, donc en charge de l'animation et à ce niveau-ci, donc au niveau du bar notamment, c'est toujours lui qui est derrière, mais sa mission est bien plus large que servir des cafés. Donc ça ce sont les choses que les gens identifient le plus quand ils parlent du centre. Peut-être tout à l'heure, si vous êtes d'accord, s'il y a un peu de temps, je pourrais vous faire monter pendant le pot, je pourrais faire monter des petits groupes pour vous faire visiter le centre, parce que vous avez la zone d'accueil qui est là. Ici, vous avez cette salle qui sert beaucoup pour les réunions, pour les événements un peu festifs, pour les événements type réunion de discussion. Au premier étage, si vous montez, il y a une bibliothèque qui est le plus gros fonds francophone européen. On n'a pas comparé avec le Canada, mais sur les questions LGBT. Donc, du coup, il y a vraiment tout. Ça peut être des livres, ça peut être des périodiques, donc des revues. Et ça peut être aussi des DVD. On en a. On a pas mal de choses. Et on a des jeux à peu près complets, des revues françaises, notamment celles qui sont quasiment introuvables. Donc, on est aussi à un fonds qui est assez intéressant pour les gens qui veulent faire des recherches sur l'histoire du mouvement LGBT en France. Donc ça, c'est notre bibliothèque là-haut, qui est également tenue par des bénévoles qui ont tout informatisé. Ils ont fait un travail de fourmi pour vraiment noter et classer tous les articles existants et tous les éléments qui sont à disposition. Donc c'est une bibliothèque et c'est une bibliothèque en prêt. Donc on peut emprunter des ouvrages. Donc la bibliothèque, donc les boîtes aux lettres associatives et des salles de réunion, une salle de permanence. Les permanences donc sont un des aspects aussi essentiels du centre, sont des permanences professionnelles gérées par des professionnels. Donc ils sont à titre bénévole, donc typiquement quand ce sont des travailleurs sociaux, ils ne font pas de prise en charge directe, quand ce sont des médecins, ils ne donnent pas de prescription, mais ils accueillent, ils orientent, ils informent. Et surtout, ils répondent aux questions des gens sur les questions avec lesquelles ils ne sont pas nécessairement très à l'aise. Donc, le type de permanence, c'est une permanence santé, avec des professionnels de santé, qui a lieu les mardis soirs, je crois. Une permanence juridique, sur les questions de droit, défense des droits, j'ai été discriminée au travail, on refuse de me donner des papiers, tout ce genre de choses. Une permanence sociale, pour les personnes, notamment ceux qui se retrouvent à la rue ou en grande difficulté et qui ne savent pas très bien vers où se tourner, qui ne savent pas à quoi ils ont droit. Une permanence emploi pour ceux qui sont éloignés de l'emploi, soit qu'ils aient subi ou non des discriminations, même pour autour de l'accompagnement vers l'emploi. Et une permanence psychologique qui donne des rendez-vous. Toutes ces permanences donnent des rendez-vous qui peuvent être pris à l'accueil de manière anonyme et gratuite. C'est sur rendez-vous là où au centre. Donc ils accueillent, ils orientent, ils informent, ils ne font pas prise en charge en direct, mais ils dirigent vers aller voir. Vous avez peur d'aller voir un psy parce qu'en France c'est un vrai problème, on a beaucoup de freudiens pas très déconstruits. l'idée c'est, vous voulez aller voir quelqu'un, vous avez besoin d'aide mais vous ne savez pas à qui vous adresser, on va vous aider, on va vous diriger vers des gens qui sont bien et qui ne vont pas être relous, enfin qui ne vont pas être problématiques. Donc c'est typiquement ce genre de questions. Il faut aussi des groupes de parole autour du coming out, autour du désir d'être parent. Il y a aussi un groupe de parole sur homo parents séparés, puisque à l'heure actuelle, les parents non biologiques d'un enfant qui élève l'enfant avec leur compagne, avec leur compagnon, et qui après se séparent, n'ont qu'un droit où très rarement il faut qu'ils aient fait reconnaître une forme de lien. Et c'est toujours très compliqué, c'est jamais simple, et c'est très facile de perdre le lien avec l'enfant. Donc pour le coup, il y a ce groupe de parole qui s'est créé dans les dernières années. Et qui est aussi assez important. Donc tout ça, ce sont les permanences spécialisées qui sont gérées par des professionnels, ce sont tous des professionnels en activité, donc des gens qui sont au courant de l'évolution du droit, des pratiques, de un peu tout ce qui se passe, et qui sont là pour conseiller, orienter, aider, évidemment, encore une fois, pour prendre en charge, c'est important. Donc voilà. En dehors de ça, le centre a des pôles d'activité qui sont des pôles d'activité, on va dire, thématiques, comme le pôle culture, qui organise des événements culturels. D'ailleurs, vous avez en ce moment un événement culturel qui est un peu plus large que le pôle culture, et qui est le Festival des cultures LGBT, que nous avons lancé, dont nous avons lancé la première édition, qui se terminera le 15 février. Donc, il y a des programmes qui sont là. Et là, vous avez une exposition, donc pour faire connaître des artistes, on peut organiser des expositions, on peut organiser des spectacles ici. C'est pas formidable nécessairement comme lieu, au niveau du, c'est pas nécessairement super bien ventilé ou la sonorité n'est pas nécessairement formidable, mais c'est important pour nous d'accueillir des événements culturels parce que pour nous, ça participe déjà de la visibilité sur un public très général. C'est une occasion de rencontrer des gens, de convivialité, de faire venir des gens dans un cadre où, encore une fois, ils ne se sont pas remis en question personnellement, où ils ne viennent pas avec un problème, ils viennent juste pour profiter d'une activité culturelle. Mais une fois qu'ils viennent, ils savent qu'on est là et ils savent que si jamais ils ont une question, ils peuvent venir et ils ont peut-être moins peur de passer la porte. Donc ça fait partie de ça. C'est aussi la valorisation de toute la production culturelle et artistique des artistes LGBT+. Ça peut être des artistes intersexes ou des artistes hétéro-alliés qui veulent faire des événements ici. Donc, pour le coup, le pôle culture est assez important. Nous avons aussi un pôle santé qui fait des actions de prévention, qui fait des actions d'information, des causeries autour de la santé sur tous les aspects. C'est pas que prévention VIH. Alors il y a prévention VIH bien sûr qui est très importante puisque le centre a été fait dans les années 90 et très marqué bien sûr par l'épidémie du sida. Donc il y a cet aspect-là qui est important, mais l'idée c'est aussi de prendre en compte leur genre. Alors, déjà de prendre toutes les populations en compte, notamment les femmes. Et pour le coup, les aspects santé femmes sont problématisés beaucoup autour d'autres questions que la prévention de VIH, puisqu'on va trouver plus de questions relatives à tout ce qui est cancer et prévention des cancers, mais aussi santé plus générale avec le bien-être, la lutte contre la dépression, la lutte contre l'isolement, contre les dépendances. Donc ça, ce sont des questions qui peuvent être abordées par le pôle santé. donc des conférences, des causeries, des actions de prévention, ici ou à l'extérieur. Il y a plein d'éléments santé qui sont là-haut. Il y a évidemment des préservatifs et du gel qui sont toujours à disposition au centre, bien sûr. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, ce sont les principaux pôles. Il y a des pôles qui sont plus par catégorie publique, donc le pôle jeunesse, qui s'est réuni de nouveau, qui vient de se réunir, parce qu'en général, c'est compliqué le début d'année. Mais le pôle jeunesse, qui est composé principalement d'étudiants, pas que, parce qu'il y a des associations étudiantes, mais il y a aussi des étudiants ou des jeunes qui ne sont pas étudiants, qui se retrouvent plus au centre, qui se sentent plus attirés par l'idée de faire quelque chose ici, dans un lieu comme celui-ci, où ils vont pouvoir rencontrer des populations très différentes, et des âges différents, et ce genre de choses. Donc ça, c'est le pôle jeunesse. Et puis, et bien sûr, on a tout un axe. Alors, on a des axes sur des publics spécifiques, avec la possibilité d'avoir des actions non mixtes. Je ne sais pas si vous avez parlé de la mixité. La question de la mixité, non mixité, ainsi que la question communauté, pas communauté, ce sont des grosses questions en France, pour les questions LGBT. Nous, évidemment, on est favorable à la mixité et au fait d'avoir le public le plus divers possible, mais pour ça, on a constaté que ce qui était le plus simple et le plus efficace, et puis aussi pour toucher certaines populations qui sont particulièrement en besoin de parole, il y a le vendredi soir un temps qui est accordé, donc des événements spécifiquement féminins, donc non mixtes femmes, et donc c'est le vendredi des femmes. Qui est un pôle d'activité à part entière. On a également fait un pôle qui s'appelle les Senioritas, qui est pour les femmes de plus de 60 ans, puisque là encore c'est une question qui émerge, parce que c'est une question dont on n'était pas nécessairement très conscient précédemment, parce que les personnes LGBT visibles qui arrivaient à un certain âge, il n'y en avait pas tant que ça. Maintenant c'est beaucoup plus présent. Et c'est quelque chose sur lequel on essaye de sensibiliser les gens qui nous entourent et nos partenaires, sachant qu'évidemment, on est en partenariat avec tout ce qui existe localement, notamment le centre de santé, notamment les associations, la mairie et ce genre de choses, pour disséminer des bonnes pratiques. Donc voilà, j'ai parlé des signes. Et on fait aussi des apéros trans, même principe, c'est-à-dire que là encore, on a un public qui se retrouvent pas nécessairement dans une offre, dans une offre spécifiquement mixte, ou dans des événements qui peuvent avoir trop une dominante lutte contre l'homophobie, où ne se retrouvent pas les personnes trans qui sont sur qui cherchent à faire reconnaître leur identité de genre, ce qui est légèrement différent, qui n'a pas exactement les mêmes ressorts. Pour le coup, avec les associations du centre, alors il y a des permanences qui existent, qui sont menées par les associations du centre pour accompagner les personnes, mais il y a aussi des éléments de convivialité qui sont les apéros trans, qui sont parfois mixtes, parfois non mixtes, suivant la fonction de la soirée. J'ai dit qu'il était non mixte, mais beaucoup d'activités du VDF sont également mixtes. L'idée, c'est que c'est juste un espace à dominante féminine, et pour ça, on les appelle non mixtes, mais la plupart du temps, il y a tous les mois, il y a à peu près une des soirées du VDF, une des quatre soirées du VDF doit être mixte. Voilà. Je vous ai fait un parcours un peu, une présentation un peu brutale du centre. Je sais que j'ai autant de temps qu'il m'en faut. Très bien. Je peux aussi vous parler des enjeux de mobilisation et de demande des droits qu'on demande et des difficultés qu'on a en France. Je pense que vous avez déjà eu des réflexions là-dessus. Nous, on est toujours, on est un lieu qui est très accueillant. Enfin, du moins, j'espère que vous le ressentez comme un lieu accueillant, parce que sinon, c'est que j'ai vraiment raté, mon Aurélie si c'est pas accueillant. Et vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que les gens se sentent bienvenus pour venir, pour passer, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit leur identité de genre. Dès lors que c'est un lieu où, évidemment, l'homophobie, la transphobie n'ont pas leur place, mais ce sont les règles de la maison. On n'aime pas les autres discriminations non plus, mais voilà. Donc c'est un lieu qui est un lieu ressource. On est en lien avec énormément d'associations. les associations du centre, mais aussi des autres. On est membre de l'Inter-LGBT, qui est la confédération, on va dire, politique de revendication des droits, donc la plateforme politique. Et nous, on est plutôt sur le volet concret, pratique et social, donc avec ce lieu et des actions qui sont tournées vers l'idée de se diriger vers le public le plus large possible, et notamment les personnes qui sont le plus en demande d'informations, de conseils, d'orientation et tout simplement de socialisation, parce que ça existe toujours. À Paris dans le Marais, puisqu'on est physiquement dans le Marais, il y a une certaine visibilité qui est possible, qui n'est pas trop problématique. C'est pas nécessairement le cas dans certaines zones de Paris vers le 19e, 20e, suivant les quartiers où on est. Les gens ne vont pas nécessairement se sentir à l'aise pour être visibles dans la rue. C'est pas nécessairement évident de savoir où sont les ressources si on ne connaît pas le Marais, si on ne fréquente pas, si on est jeune, si on vient d'arriver à Paris. Donc pour le coup, on a vraiment des publics très différents en termes de leur estime de soi et de leur façon de se présenter au monde et d'être visible ou pas. On a aussi des gens qui viennent du reste de l'Île-de-France, et là il y a des endroits où il y a vraiment des problématiques très lourdes, parfois. Sachant que en France, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été faites au niveau du droit. Il y a une avancée assez forte, notamment culturelle, dans de nombreux milieux, mais il y a un gros décalage. On ressent assez fortement ce décalage entre différents endroits territoriaux, différents milieux sociaux, où, pour le coup, là où ça passera comme une lettre à la poste sans aucun problème, dans certains endroits, dans certains milieux sociaux, il va y avoir par contre une très forte homophobie exprimée ou pas explicitement, mais il va y avoir une chape de plomb qui peut être très importante. Et l'idée, on est ressources aussi bien pour les gens qui ont un super projet un super projet artistique queer qui va révolutionner le monde et qui va choquer les gens dans le Marais, on est là. Et on est aussi là pour les gens qui sont vraiment très très loin de la visibilité et très très loin d'une démarche de visibilité réfléchie, intégrée, pensée, et qui vont juste avoir besoin de renseignements ou juste besoin de dire à d'autres gens qui commencent à s'identifier, qui commencent à dire, à se reconnaître, à admettre, admettre j'aime pas, mais qui commencent à se confier à des gens et qui commence à rencontrer et à commencer à tenter d'être à l'aise avec une forme de visibilité. Voilà. Donc on a un public qui est très large, qui est sur des optiques très différentes, qui peut être issu d'endroits où vraiment la façon de concevoir les choses et de pouvoir dire les choses peut être complètement différente, même si on est à Paris, même si on est au cœur de Paris. Voilà. C'est pas que des gens du coin, c'est aussi des gens d'autres villes de France, des gens des zones un peu excentrées aussi, et des gens d'un peu partout, et on mène des choses en commun avec tout le monde. On accueille toujours tout le monde, X fois, pour un café ou pour les événements. On a aussi des cours, je vous ai parlé des cours de bien-être. On a des cours de yoga, de gym et de chant. Qui sont menés à des tarifs très, très sociaux, parce que pour nous c'est une action qui aide les gens à se sentir mieux, à avoir une estime de soi, à pouvoir se reposer, être un peu dans la sérénité, donc c'est important. Donc on travaille avec des professeurs certifiés bien sûr, qui assument des cours ici, et donc y a, les cours sont également ouverts à tout le monde, et les gens du quartier d'ailleurs en profitent. On a une AMAP, c'est-à-dire une AMAP, c'est une espèce de système autogéré agricole où on peut s'abonner à des fruits et légumes. Donc une AMAP tous les samedis. Et également, c'est une AMAP qui bénéficie à tout le quartier indépendamment des questions LGBT. C'est une question qu'on ne pose jamais aux gens. C'est bonjour, tu es LGBT, tu es quoi, tu es plutôt elle, voilà. Donc ça c'est une question qu'on ne pose pas, parce que c'est, les gens le disent ou ne le disent pas, c'est pas notre, c'est pour nous c'est l'idée, c'est que idéalement ça doit être un non-objet. Finalement, l'idée, alors ça, pour le coup, c'est peut-être quelque chose qui est assez spécifique à l'expression LGBT française, c'est cette idée de fusion dans un universel, dans un universalisme. Il y a aussi une expression, il y a aussi des expressions culturelles spécifiques, etc. Il y a des choses qui peuvent exister. Mais c'est vrai que pour nous, les gens vivent leur visibilité, leur vie de la manière qu'ils le souhaitent, et on ne pose évidemment jamais de questions autour de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre des gens. Spontanément, on essaye de ne pas supposer quoi que ce soit. Et puis, on fait des recrutements assez régulièrement pour les gens qui veulent devenir bénévoles volontaires, c'est-à-dire des gens qui veulent donner des heures, qui veulent venir ne serait-ce que 2 heures par semaine ou 1 heure par semaine, aider à l'accueil ou aider à la bibliothèque ou ce genre de choses. C'est une occasion de rencontrer des gens. Il y a toute une équipe qui est fortement encadrée. Les volontaires qui viennent ne sont pas lâchés dans la nature. Ils sont, quand on fait des recrutements, il y a tout un processus. Il y a vraiment des entretiens avec le bureau. Il y a un protocole de formation, mais beaucoup l'accent sur la formation. Donc, notamment des formations sur le mouvement LGBT en France. Donc l'histoire du mouvement LGBT, une formation sur la transidentité, les transidentités, parce que c'est pas toujours simple pour les gens qui veulent être volontaires de savoir parler correctement de ces choses-là et employer des mots qui vont bien. Ce sont les principaux. On intègre un travail sur le féminisme aussi et les questions de genre en général. Une formation à l'accueil, à l'écoute non jugeante, puisque les gens à l'accueil sont évidemment, c'est très important qu'ils puissent, que les gens qui viennent ne se sentent pas jugés, quelles que soient leurs questions, quelles que soient leurs interventions, parce que parfois il y a des gens qui ne savent pas nécessairement dire les choses. Ou qui disent des choses auxquelles le volontaire n'avait pas nécessairement pensé, ce genre de choses. Donc il y a tout ça, il y a des référentiels, il y a beaucoup les gens sont accompagnés. Et les volontaires, les gens qui veulent devenir volontaires, dans le cadre de leur formation, font toujours quelques heures d'accueil. Parce que pour nous, c'est l'aspect essentiel. Et ils sont toujours accompagnés pendant leur temps d'accueil. Et ça, ils savent vraiment comment ça se passe.
Peut-être une question justement par ce sujet, parce qu'on représente tous des programmes où les étudiants ont souvent envie de se rendre utile par du volontariat. Donc je comprends bien que ça suppose un engagement d'une certaine durée. Et donc des étudiants qui seraient là pour 4-5 mois n'auraient pas forcément accès à ce genre d'offres, n'est-ce pas ?
Alors, c'est une très bonne question. C'est effectivement une situation. Alors, quand j'ai pour l'accueil en particulier, c'est vrai qu'on est beaucoup sur la durée. Après, ça peut, les différents pôles, ça peut être une heure par-ci par-là. C'est pas nécessaire. L'accueil suppose une grande régularité. Mais pour le pôle culture, par exemple, il est tout à fait envisageable de pouvoir venir à tel et tel événement parce qu'on a du temps, mais de ne pas s'inscrire pendant 2-3 mois, etc. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'on essaie de développer des possibilités pour les gens de venir de manière ponctuelle, c'est-à-dire par exemple avec le festival qu'on est en train de monter, il y a la possibilité pour les gens de venir, parce que ça, c'est typiquement, sur une vingtaine de jours, on a 30 événements. Donc, ce sont 30 événements culturels, c'est un peu beaucoup. Donc, on ne laisse pas les artistes tout seuls non plus. Donc, il y a besoin de monter des expositions, d'aider à l'accueil des publics et ce genre de choses, d'aider à diffuser l'information, à aller poser des affiches, à en distribuer dans les bars, tout ça. Donc, là-dessus, c'est un événement sur lequel on a ouvert la possibilité de bénévolat ponctuel, donc avec une forme d'accompagnement, mais beaucoup plus léger que la formation longue qui est la nôtre pour les volontaires. On appelle les bénévoles volontaires, c'est comme ça. Mais ici, on les appelle les volontaires. Et donc, là, il y a cette possibilité-là. Et puis, sur quelques mois, il y a toujours la possibilité de s'associer sur un projet ou juste de participer, ne serait-ce qu'au pôle jeunesse. Déjà, ça, d'une part, ça peut être intéressant. Et il y a l'occasion, parce que le pôle jeunesse est structuré de manière que ce sont beaucoup des étudiants, par exemple, le pôle jeunesse, donc des gens qui sont effectivement pas nécessairement à Paris en permanence, pendant des années et des années. Le pôle s'organise assez souvent et organise des événements qui peuvent avoir lieu dans des universités, des tables santé, tout simplement, dans des universités. Je crois qu'il y avait la Cité universitaire internationale. En début d'année, on a organisé des tables santé sur la prévention des IST. Et donc là, typiquement, c'est le genre d'initiative sur lequel on fait appel à des volontaires, à des gens qui peuvent donner un coup de main, même s'ils ne sont pas volontaires de long terme. Et, sachant qu'il y a toujours des volontaires de long terme qui sont là aussi, parce qu'il y a aussi, une certaine compétence, une certaine représentation du sujet. Donc le festival, c'est précisément pensé comme le genre de choses qu'on organise assez régulièrement. Ça, on l'organisera tous les ans. Où les gens peuvent s'investir et peuvent donner un coup de main, même s'ils n'ont pas nécessairement de formation sur l'accueil du public, même s'ils ne sont pas... on peut les accompagner, on peut monter des choses assez simplement. Et bien ça, c'est le genre de choses où tout le monde est toujours bienvenu. Et puis dans le pôle jeunesse, mais en particulier, beaucoup fait pas mal d'événements et de réunions. Et lors de ces réunions, il y a des questions, des projets qui sont à venir où on peut se porter volontaire sur tel et tel événement. Et ça, c'est et même plus largement, ils sont bienvenus pour venir au centre, discuter avec des gens et voir, et aider de manière informelle. Ça, on n'a jamais refusé du monde.
C'est quand le festival ?
Ça a commencé le 25 janvier, ça finit le 15 février. Donc voilà, donc il y a des. Je fais une promo absolument éhontée. Non, mais il faut, parce que voilà, on n'a pas nécessairement. Sinon il y en a à l'accueil des comme ça, et ça c'est le programme du centre sur le mois. Tous les mois on sort la revue Genre. Oui, Genre, c'est aussi un pôle d'activité. Je ne vais pas parler, mais parce que c'est tellement formidable qu'on en parle bien sûr pas. Mais effectivement, on a un pôle d'activité autour de la revue, des gens qui écrivent des articles, qui aident à mettre en page tout ce genre de choses. Donc là, on a pas mal de monde qui aide là-dessus, et c'est une journée qui est pas mal. C'est vraiment fait avec les moyens du bord, mais il y a vraiment tout le programme, il y a tout ce qui se passe. Et c'est gratuit, gros avantage. Et on a aussi une activité, enfin on a un pôle web et réseaux sociaux et un pôle informatique.
Est-ce que vous avez la possibilité d'appeler des jeunes femmes ?
Alors oui, le pôle jeunesse, alors ça, cette année, ils n'ont pas encore mis en place, mais l'an dernier, il y avait des groupes de discussion en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'anglophones qui voulaient discuter en français. Et à l'inverse, les Français qui voulaient discuter en anglais. Donc ils avaient organisé des groupes de discussion parce que le pôle jeunesse se prête le plus à ça, parce que c'est souvent des étudiants et qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux à Paris. Donc ça, c'est quelque chose, à partir du moment où il y a 2-3 personnes qui sont en mesure de le faire, c'est quelque chose qui est fait. Il y a de bons anglophones dans la plupart des pôles d'activité. Et c'est important pour nous qu'on puisse, parce qu'on est aussi, Paris est évidemment une grande ville, qui a beaucoup de gens qui sont aussi là, pas nécessairement pour beaucoup de temps, ou des gens qui ne parlent pas nécessairement français, notamment parmi les réfugiés. Et du coup, c'est important de pouvoir communiquer. Donc, oui.
Pour nos collègues qui viennent de province, on a deux, notamment là, de Lyon. Et notre cher collègue de Toulouse qui est sur
Toulouse.
Skype, est-ce qu'ils ont les mêmes possibilités, les mêmes accès aux ressources ?
Alors, il y a des lieux dans ces villes, il y a des centres, il y a des centres en France, il y en a quand même pas mal, des centres LGBT. À Toulouse, alors je sais qu'il y a le Bagdam Café, il y a quelques lieux qui existent, je ne sais pas s'il y a un centre à part entière, mais je sais qu'il y a des lieux qui existent. Il y a Lyon, je suis sûre qu'il y en a. Il y en a. Là-dessus, vous pourrez trouver sur la fédération, le site sur lequel vous pourrez vous renseigner, trouver toutes les adresses en province. C'est la fédération LGBT, parce que alors l'univers associatif LGBT français est un tout petit peu compliqué, vraiment un tout petit peu compliqué. Et donc il y a des groupes qui se parlent, des groupes qui se parlent moins, mais voilà. Nous en fait on est le centre, on a 80 associations, on s'entend avec tout le monde. Il y a l'inter-LGBT qui regroupe les associations de Paris et d'Île-de-France autour des problématiques politiques et de l'organisation de la marche. À l'extérieur de Paris, il y a une fédération qui s'est montée de tous les centres LGBT en France, parce que, voilà, parce que les problématiques ne sont pas nécessairement les mêmes, et puis il y a tous les problèmes d'organisation et de compréhension mutuelle entre Paris et les régions. Qui sont un grand classique. Donc, pour le coup, il y a une fédération qui s'est montée de la plupart des centres LGBT en province. Donc, eux, ils n'ont pas d'association à Paris, mais par contre, ils ont sur leur site, il y a les coordonnées de tous les centres qui sont affiliés à la fédération LGBT. Ils font du très bon boulot, il n'y a pas de souci. Alors, sachant que les lieux vont avoir. En province, je suis désolée, j'emploie toujours le mot province, en région, sachant que Paris, Île-de-France, aussi une région, mais en région, il y a parfois des centres qui ne sont pas ouverts tous les jours, qui sont ouverts que le vendredi et le samedi, parce qu'ils n'ont pas assez de gens pour tenir tout le temps. Mais en général, quand c'est le cas, ils ont des sites qui sont bien organisés. Et donc il y a moyen de savoir ça à l'avance et d'entrer en contact. En général, ils sont bien. Il y a des lieux qui ont plusieurs. À Lille, il y a plusieurs centres, parce que c'est comme ça. Et on travaille avec un centre qui est J'en suis, j'y reste. Mais il y en a aussi un autre. Donc il y en a parfois, il y a même plusieurs centres. Je crois une ville qui n'a pas de centre, c'est Marseille, mais à part ça, je crois que les grandes villes de France ont toutes des centres.
D'autres questions sur la toute dernière partie de cette demi-journée. En tout cas, Flora, merci beaucoup. Flora a gentiment accepté de rester avec nous pendant le cocktail, donc si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit d'ici 20 minutes, n'hésitez pas à la solliciter. Et puis, comme elle avait dit, vous pouvez également aller visiter les autres espaces de ce centre qui sont...
Ouais.
Voilà, ici.
Oui, il vaut mieux pas les défiler.
Oui, voilà, c'est ça. Rien ne fait peur, hein. C'est pas les... des backrooms qu'on a pu découvrir ce matin, enfin en début d'après-midi. Just quickly, and I know that the day is starting to wind down, one of the recurrent themes that we've heard since the first presentation this morning had to do with safety, trust, respect. What else have we talked about in terms of speaking to LGBT persons, people?
Not being judgmental.
Right, not being judgmental, having an open mind. one thing that I wanted to close on, because we found that Lisa, France and I found that it sort of federated everything we've heard since this morning, was the notion of the safe zone, which is a concept more than it is an official institution that began in the early 90s, I believe it was. Several universities that recognized LGBT persons were having difficulties finding a safe place to talk about their questions. They weren't sure whom they could trust. If I go talk to this person, will they judge me? Will they persecute me? Will they be violent towards me? And I believe it was Ball State was the first university that started this safe zone concept. In any case, over the years, it's been very much an organic movement that's spread. And some of you, actually, how many people in here have heard of safe zone? Cynthia? Oh, so I don't need to do all this, do I? How many of you have gone through safe zone training? Cynthia and me. And all right, awesome. All right. So this is something that's offered on many campuses in the U.S. now. They're usually half-day workshops that sensitize people like us to questions around LGBT themes. So almost everything that we've seen up until now today in a little bit more detail
from the psychological aspects to the health aspects, and a lot of it is actually sort of trying to pool resources and help you understand what kind of resources are available to you, so that when an LGBTQQA person approaches you, you're not expected to be an expert and have all the answers, but rather be able to be open-minded, speak in a non-judgmental way. Things like microaggressions are actually very easy to C79 in the back are actually very easy to make when you don't know how to adopt the correct language speaking to someone you may not understand, whose background you may not understand. These half-day usually workshops again are offered at most U.S. universities. I don't know if yours offer them or some of you have gone through the training. I would encourage you to reach out to your schools if you're interested in your space in Paris where you work becoming a safe zone. The idea is that typically, entire campuses do not become safe zones, but individuals who wish to be allies, who wish to be that open ear and hear, they make their offices safe zones. They go through this training, and then there's often a sticker. I printed out some examples that I've found on the internet, different sort of visuals that you put on your door, and by virtue of make your office space or your floor or maybe even your entire study abroad center a safe space for students to come and speak to you. There is a possibility, if you found this sort of half day to be enriching, I hope that you're leaving with more questions than answers. That means that you've managed to sort of stir your brain up a little bit, and that you'll be questioning and going out and searching answers to your questions. If you have any questions about Safe Zone, I was Safe Zone trained about 10 years ago at Clemson University, and even for myself, someone who's identified LGBT for, it was 97 to 2006, almost 20 years now. I found the experience to be quite mind-bending, just in terms of understanding how to adopt specific language, understanding where the resources were. I was working in a very small rural campus where the resources were quite limited, but found that even having that sticker on my desk, students, LGBT, felt comfortable talking to me. Actually accompanied 2.5 years through their own coming out process. And I'm not a psychologist, I'm not a therapist, I'm not an expert, but these students came back to me and back to me and back to me again with questions, with stories, with all sorts of things that you don't always expect to talk about when you're a professor. But and I'm happy to report they're all very happy and healthy in relationships today. But it's a very enriching experience, and if it's something you would be interested in, I found two quite interesting resources. Again, the Safe Zone training, it's nothing that's been officialized. It's highly organic. However, over the years, since 92, so 23 years, the resources that are available online are quite extensive, and I know that almost every university in the U.S. now offers some sort of sensitivity training. TheSafeZoneProject.com is a website that I found to be particularly well furnished in information. You can also, if you Google the Gay Alliance Safe Zone programs, they also have quite a bit of information on their website. So I would encourage you to go have a look. It may be worth, again, trying to put together some sort of Safe Zone training, be it in your individual institutions, something through OPWAF. We can figure that out later if you're interested in becoming a safe space. So I think the time is upon us. If anyone has any questions for Flora, for me, for Francie, for Lisa, this has been a project long in the making. Thank you, Lisa, for bringing it to our attention, the importance of these questions in the first place.
And we'll also do our best to put as much as we can up on member access on the APRA website.
Well, thank Anna in advance for the 500 uploads she's about to make to the website. All of our sessions today, do know, have been recorded. We invested, the CA decided to invest in recording equipment. So all of everything we've heard today is... I guess I should leave this running. Is now on in digital form, and Anna will be uploading it to the web. Our friends from Health Services left tons of brochures. I tried to pick up one of everything as we were running out of CEA. I'll leave these maybe down here if you want to peruse during the cocktail. I'm not sure to what extent we could scan these and put them on the website, but...
They might have electronic
versions. Oh, or links to them, right. And the presentations that we saw today, in any case, all the PowerPoints and PDFs, we will put up on the website as well. There were tons of websites, phone numbers, and whatnot, and I'm sure you'll need at least a half day now to digest and filter through your brains everything you've seen today. So, thank you for your attention. Don't leave. There's a cocktail that Adita Toshi and Naja can start on the...
a big thanks to the organization.
Why y'all say
sit down. No, drink. Be merry.
Laura, are you still there? Uh-oh.
You did? Left.
Yeah. Oh, hi there. Barbara, you're back. I wish we could send you a drink through the web, but... Well, thanks for making it. Here's Lisa.
Yeah, hi. Bye.
Good. Good. Well, thanks for linking in. I'm glad we were able to do this with technology. That's great.
And some of the numbers are like 0800 numbers as well, so I think they're fairly national.
Like absolutely. Like Southeast.
Stuff like that. So, actually, it would be helpful if you go through those things to maybe,
highlight
for the people, out in the region to highlight those. Bye. We're off to cocktail.
Yeah.
Sorry you're not here, but we're glad you came.
Santé, huh? Take care.
Because you went back again, right? You went back out. No, but you went back to the museum, but you didn't come back out. It was the same visit. Yeah, you stayed. Okay.